13h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette semaine, pour votre Libre Antenne en direct qui vous emmènera ce soir comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin. Alors il fait froid, chers amis, il fait froid. Il neigera même demain à Perpignan, m'a-t-on dit ce soir. Nous sommes rentrés dans le dur, comme on dit, le dur de l'hiver. Mais la bonne nouvelle dans cet abysse hivernal, c'est que la lumière est de plus en plus présente chaque jour, car les jours rallongent. Alors voilà, quand vous avez froid, que vous pensez que voilà, c'est trop froid pour vous, eh bien pensez à cela, la lumière est là, la lumière revient. Et puis quoi de mieux que d'être confortablement installé au chaud ce soir, près d'un bon feu de cheminée ou moelleusement mitouflé dans un bon plaid pour écouter votre Libre Antenne. Alors soyez les bienvenus sur votre radio, sur Europe 1, car ici, c'est votre voix qui compte. Vous nous appelez au 39-21, c'est 50 centimes d'euros la minute. Au 7-39-21, vos remarques, vos conseils, vos questions. 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis toujours notre adresse mail, lalibreantenne@europe1.fr ou sur Facebook, notre groupe de parole, où vous avez été encore quelques centaines ce week-end à nous rejoindre. Alors merci pour votre confiance. Sur ce groupe de parole, Olivier Delacroix, Sabine Marin, vous pouvez écrire vos mails à Florian, à Natacha, qui se feront un plaisir de reprendre contact avec vous, et comme ça vous pourrez commencer à échafauder votre témoignage. Pour l'heure, que diriez-vous que nous commencions cette Libre Antenne du lundi ? C'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Robert au 39-21. Bonsoir Robert.
Bonsoir monsieur, ça va bien ?
Ça va et vous ?
Oui, ça va super bien. Et vous disiez qu'il faisait très froid, l'hiver était commencé. Je peux vous dire qu'au Québec, présentement, il fait moins 30 degrés. On a eu 25 cm de neige dans les derniers jours. Alors, l'hiver est bien commencé au Québec aussi.
Ah, mais vous savez que nous ne sommes pas habitués à ces températures-là, Robert. Vous savez, en France, dès qu'il fait un petit peu en dessous de zéro, c'est un peu la catastrophe un peu partout.
Ben là, je suis présentement chez vous, ici en France, c'est pas loin de Bordeaux présentement. Je peux vous dire que je trouve ça vraiment agréable présentement.
Ouais. Ben c'est presque le printemps pour vous, là.
C'est le printemps pour moi.
Très bien. Alors, Robert, racontez-moi ce qui vous amène.
Ben, ce qui m'amène, c'est l'histoire à mon père, hein, qui a été assassiné en 1995 par trois individus, deux de 18 ans et un de 19 ans, à coups pied à coups poing. Les trois individus étaient sur les stupéfiants, sur l'alcool, les drogues, et il y en a un des trois qui avait une voiture, et la voiture ne démarrait pas. Alors, ils ont décidé d'aller voler une batterie, et quand ils ont traversé la rue, parce que mon père était stationné,
oui.
Mon père attendait sa cargaison de journaux. C'était un camionneur pour une compagnie de journaux. Il avait 63 ans. Et quand ils ont traversé la rue pour aller voler une batterie, il y avait une voiture dans le stationnement. Et quand ils ont ouvert le capot dans cette voiture, il n'y avait pas de batterie.
D'accord.
Et là, ils ont vu mon père qui était après écouter la radio. Et mon père, ce qu'il a fait, lui, en entendant le bruit, il est débarqué de son camion, il est ouvert ses portes en arrière pour montrer qu'il y a un camionneur qui s'en venait livrer ses journaux. Et là, les trois individus ont commencé à y parler. Ce que vous faites ici, monsieur, on aimerait ça que tu viennes nous porter à un autre endroit. Et mon père, ben, faisait des gestes comme quoi que le camion était pour arriver d'une minute à l'autre pour venir y livrer ses liasses de journaux. Alors, il y en a un des trois qui s'est enlacé en arrière de mon père et il l'a saisi par les deux bras. Et en le saisissant par les deux bras, mais les deux autres individus ils ont commencé à le tabasser à coups de poing. Et à un moment donné, à force de le tabasser à coups de poing, il est tombé couché au sol sur le dos et ils sont mis à le frapper au visage à coups de pied. Et ils l'ont tué pour la somme de 40 euros.
C'est terrible. À Québec, ça s'est passé, ça?
Ça s'est passé juste sur la frontière de l'Ontario à Ottawa.
D'accord.
La capitale nationale.
D'accord, parce que en fait, j'ai lu quand même quelques articles sur le Canada. Les meurtres sont moins répandus que chez nous, ou est-ce que ce sont les meurtres avec des armes à feu qui sont moins répandus chez vous là-bas?
Ben, c'est sûr que c'est moins répandu avec les armes. Si on fait la comparaison aux États-Unis, c'est sûr que c'est moins répandu. Puis, tout ce que mon père, il était, c'est sûr que c'est quand même un endroit qui est normalement calme.
Oui.
Monsieur de 63 ans, travailleur de nuit, qui fait juste ramasser ses journaux, et ça a été un moment horrible pour nous, la famille. Alors,
oui, je me doute. Quel était le profil de ces jeunes, Robert?
Ben, c'était trois individus dans le milieu criminel. Hein, qui avaient été, tu sais, ils ont tout un parcours parce que, comme je vous ai mentionné, c'est arrivé le 24 août 1995. Alors, j'ai pu aller chercher l'information qui étaient ces individus-là. Et je dois vous dire que famille d'accueil, beaucoup de violence dans leurs enfances. Et c'était des gens dans le milieu criminel.
Donc, des jeunes qui avaient déjà fait de la prison?
Oui, presque. Beaucoup de centres fermés, hein,
oui.
Pour ados, jeunes ados. Alors.
Votre famille, donc, vous me disiez, a été bien évidemment terrassée par de douleurs, hein, par ce meurtre. Vous, comment est-ce que vous avez réagi à tout ça? Est-ce que Quand on perd un proche dans de telles conditions, on peut comprendre ou penser que c'est la colère qui va faire place, la vengeance. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Ouais, c'est sûr que à l'époque j'ai 28 ans et écoutez, aujourd'hui j'avais un père extraordinaire. Mon père nous aurait donné son cœur. Mon père nous aurait donné ses reins pour ses enfants. On était cinq enfants chez nous.
Oui.
Mais par contre, on a été élevés dans la violence. Un regard écrasant, parfois des cris, coups de strap, coups de poing, parfois pour nous éduquer. Mon père était violent. Mais une famille quand même unie malgré tout ça. Et c'est sûr que quand c'est arrivé à l'âge de 28 ans, j'ai 28 à l'époque, qu'est-ce qui s'est éveillé? Que j'appelle dans ma société intérieure, que dans mon affectivité, cette zone fragilisée, c'est sûr que c'est la violence que j'avais vécue. Hein? Fait que oui. C'est certain que à ce moment-là, c'est dent pour dent et œil pour œil. Ces personnes-là vont payer parce que je ne suis pas capable, moi, à l'époque, comment m'occuper de ce qui est éveillé. J'ai à peine connaissance, c'est quoi une émotion, c'est quoi un sentiment. Alors, c'est la colère, c'est la haine, c'est la vengeance, l'injustice qu'on peut éveiller à ce moment-là. C'est tout ça qui s'était éveillé en moi. Alors, c'est certain que j'avais le regard à l'extérieur et j'avais bien hâte de savoir c'était qui ces personnes-là. Et quand les policiers sont arrivés à la maison, le détective avec classe et un professionnel, il a demandé, tu sais, il nous a raconté toutes les procédures, qu'est-ce qui était pour se produire, et ainsi de suite. Et avec gentillesse, il a demandé à ma mère si elle voulait faire un témoignage à un poste de télévision dans francophone pour peut-être aider les policiers à avoir un témoin, ainsi de suite. Et ma mère, avec son courage, elle a accepté.
Oui.
Et elle a accepté avec courage et elle a commencé à raconter à la télé comment est-ce qu'elle se sentait suite à la mort de mon père, qu'elle venait de perdre son conjoint et ses cinq enfants venaient de perdre leur père. On était une famille unie. Et il y en a un des trois meurtriers à ce moment-là qui écoute la télé et lui, ben la culpabilité s'est éveillée. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé son avocat et se sont présentés au poste de police pour aller dévoiler ce qui s'était produit.
D'accord. Ils se sont rendus à la police, donc.
Lui s'est rendu à la police et 31 heures après, ils ont fait l'arrestation des deux autres meurtriers.
D'accord. Et c'est là que vous avez découvert donc le profil de ces jeunes gens?
Pas à ce moment-là. Moi, à ce moment-là, je voulais juste savoir c'est qui. Comme je vous ai dit, la violence, elle était au vif, elle était éveillée. Alors, c'est certain que je voulais savoir c'était qui. Et là, ben, il y a eu l'enquête préliminaire. Je vais vous épargner de tous les détails, mais il y a eu l'enquête préliminaire. Hein. L'enquête préliminaire, le témoin a tout dévoilé, ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que j'étais capable de vous mentionner que mon père était débarqué de son camion, elle ouvrait ses portes en arrière et qu'il avait parlé avec mon père. Et quand il frappait mon père, c'est ce qu'il raconte dans la boîte des accusés. Il raconte comme quoi que mon père faisait juste crier « Lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? »
Oui.
Alors moi, je suis assis dans la cour et je peux vous dire que la rage et les pleurs et j'ai juste le goût... d'arracher les yeux de ces personnes-là.
Ouais,
c'est la vengeance.
Oui, je me doute. Comment est-ce que vous avez combattu ce sentiment-là de vengeance, de haine?
À l'époque, comment est-ce que j'ai combattu? C'est qu'à l'époque, je prends aucune substance. Ça fait déjà 5 ans que j'ai arrêté. Alors, je veux pas retourner dans cette place-là parce que ça a été tellement difficile à arrêter.
Oui.
Et moi, ben, c'est certain que quand j'ai été identifié mon père, il avait les yeux noirs, les lèvres enflées, le côté droit du crâne tout écrasé. C'est le dernier regard que j'ai eu sur mon père et tous les soirs quand je me couchais, c'est ce regard-là que je voyais, c'est cette image-là que je voyais et c'est les derniers cris que j'ai. Et j'ai été 5 ans à entendre ça. Et j'ai une fille à l'époque qui a 5 ans. Alors je veux pas retourner dans les stupéfiants parce que je sais que je vais mourir si je retourne là.
Oui,
alors je veux pas faire vivre à ma fille ce que moi je vis. Et là, ben je ne sais pas comment me libérer de cette charge émotionnelle. Alors je décide de fuir dans le travail pour oublier, pour ne pas ressentir. Et ce que ça le fait pendant 5 ans, ben j'ai eu le travail à mon père. Alors je partais à 11 heures le soir. Jusqu'à 4 heures le matin, j'avais son parcours avec son camion et par la suite, j'avais un autre emploi à temps plein de 6 heures aller jusqu'à 3-4 heures l'après-midi. Alors, je fuyais beaucoup dans le travail. Ce que ça a fait, c'est que j'ai bâti un empire comme entreprise et avec une centaine de sous-traitants, des camionneurs, ainsi de suite. Et à cette époque-là, ben je fuis et tous les soirs que je peux dormir quelques heures, je me fais des scénarios comment est-ce que ces personnes-là vont mourir en sortant de prison.
Oui.
Et j'étais prisonnier moi-même. Hein. C'est comme si j'avais donné mon pouvoir à ces personnes-là.
Oui.
Et pendant 5 ans, c'est tout ce qui me revient. Et à l'époque, inconsciemment, ben j'ai besoin de plaisir. Alors, le plaisir que je vais me chercher, ben c'est l'achat d'une maison, une grosse maison avec des voitures. Je garde beaucoup ma conjointe, elle n'a pas besoin de travailler, mais par contre, je suis pas présent. Je suis pas là, je suis dans le passé, je suis dans le futur, dans mes pensées.
C'est la colère quelque part qui continue de vous empoisonner, quelque part, non?
C'est la colère qui m'empoisonne et je porte beaucoup de masques à cette époque-là parce que j'ai un plan et mon plan, c'est la vengeance.
Oui.
C'est de détruire ces personnes-là. Alors, j'étais prisonnier de ces personnes-là moi-même. Puis, c'est sûr qu'à l'époque, ma conjointe, elle n'a pas pu continuer à vivre avec moi parce que le temps que j'étais présent, je n'étais pas là, comprenez? Et j'étais toujours parti sur la route, toujours à travailler. Quand j'étais là, mais j'étais absent. Je n'étais pas présent avec la personne que j'étais. Alors, elle a décidé de me quitter. Et ça a été le tremplin du fond du baril, comme on peut appeler au Québec. Et à ce moment-là, quand elle m'a quitté, ben un soir, je suis assis chez moi dans mon salon et je regarde tout le matériel que j'ai. Et je m'aperçois que je suis seul à vivre ce matériel, cette abondance, si on peut dire.
Oui.
Et je suis tellement en colère, tellement en haine, j'ai tellement mal, j'ai mal dans les tripes. Et j'ai été prendre ma douche ce soir-là et je me suis mis à hurler dans la douche de douleur, de souffrance, et j'ai mal, et je me suis battu moi-même dans la douche parce que je veux avoir mal ailleurs que dans le corps, alors je me frappe au visage, un coup de poing, un coup de claque, et je crie ma vie. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je suis sorti de la douche et j'ai tombé couché au sol dans ma chambre, comme un petit enfant qui vient de naître. Et j'ai regardé au plafond, au ciel, j'ai dit, si toi t'existes, là, il est temps que tu me le montres parce que je suis plus capable de vivre ça. Le lendemain, je suis arrivé à un des journaux où est-ce que je fais affaire et il y a une secrétaire que j'ai la permission de donner son nom. Elle s'appelle Ginette Lafont. Ginette Fontaine, et cette personne-là, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, mais très timide, peu de conversations, bonjour ici et là, quelquefois on échange, mais peu de conversations. Oui. Et ce matin-là, elle est venue me voir avec une confiance inébranlable, elle a commencé à me parler de cheminement personnel,
oui.
Et là j'ai compris que voilà ton signe, écoute-le. Et c'est là que j'ai commencé à faire du cheminement personnel.
Oui. Comment, dans les premiers temps, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vous dites? Comment il commence, ce cheminement personnel?
Ce cheminement personnel, c'est sûr que j'avais peu fait de cheminement personnel dans ma vie. Et ce que j'ai compris, c'est que à l'époque, le pardon, la façon que c'était enseigné, c'était égoïste pour soi. Tu ne donnes nullement raison aux personnes qui t'ont blessé. Tu sais, là, et j'ai le goût de dire aux auditeurs qui m'écoutent présentement, parfois, c'est une peine d'amour, puis on en veut à son ex. Parfois, on en veut à un collègue de travail. Parfois, on peut en vouloir à son voisin. On peut s'en vouloir à soi-même. Mais c'est sûr que j'ai le goût de dire aussi de ne pas comparer mon histoire avec la sienne, parce que la souffrance n'est pas tangible, hein. On ne peut pas toucher à la souffrance. Et chacun sa souffrance et c'est là qu'il est important de mettre le regard sur soi. T'sais, je dis toujours dans mes enseignements, mettez le projecteur sur vous. Et c'est ce que j'ai fait. Et en mettant le projecteur sur moi, ben, j'ai compris que je devais libérer mes charges émotionnelles. En mettant des mots sur mes malaises, sur mes sentiments, mettre des mots M-A-U-X.
Oui.
Et le partager à un autre humain. Comment est-ce que je m'étais senti? La rage, la colère, la haine, et être vulnérable et sensible à cette partie-là de frustration, de haine, de colère, d'injustice. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a fait un bien énorme. Et au début, quand je suis sorti de cette thérapie, je disais, j'ai libéré, je me sens mieux, mais par contre, je n'irai pas dîner avec eux. J'ai compris que le pardon, c'était égoïste. On faisait ça pour soi. On ne donne pas raison aux gens qui t'ont blessé. Mais par contre, en m'étant libéré, je me sentais mieux. Ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dans mon cas, c'est que j'ai commencé à faire des petits témoignages dans des groupes de soutien. Et des témoignages que je faisais à l'époque, je dois vous dire, je rouvre une parenthèse, quand c'est le temps des exposés oraux à l'école, j'allais même pas à l'école parce que j'avais tellement peur du jugement.
Oui.
J'avais peur de qu'est-ce que les gens auraient pu penser, qu'est-ce qu'ils auraient pu dire. Et j'allais pas à l'école. Alors là, j'ai commencé à faire des témoignages en racontant d'une vulnérabilité-sensibilité parce que moi, à l'époque, la vulnérabilité-sensibilité, c'était que pour les gens qui étaient faibles.
Oui.
Je peux pas être sensible, là. Je peux pas être vulnérable.
Comme mon environnement. Comme beaucoup pensent que quand on est vulnérable, quand on peut montrer quelques signes de faiblesse, ben voilà, c'est qu'on n'est pas à la hauteur. Beaucoup de gens pensent ça.
Beaucoup de gens pensent ça, puis c'est une de mes plus grandes forces, et c'est une des plus grandes forces que l'être humain possède, mais peu savent l'utiliser. Parce que être vulnérable, ça veut dire c'est de mettre un genou au sol et c'est de regarder justement cette souffrance-là qu'on vit et de lui donner toute une attention, une écoute que ces sentiments-là n'ont jamais reçu dans notre enfance.
Ouais.
Peu d'écoute.
Ouais. Être vulnérable, c'est aussi montrer aux autres cette vulnérabilité, le fait d'être fragile et montrer sa fragilité, justement, je trouve que c'est quelque part beaucoup d'humilité, déjà. Accepter que l'on est dans cet état et accepter d'être jugé en tant que tel, en tout cas que les autres le perçoivent.
Oui. Oui. C'est vraiment avoir le regard sur soi, hein, et d'écouter son intelligence émotionnelle que j'appelle. Et ce regard-là sur soi, mais c'est se mettre un genou au sol et en étant vulnérable et sensible à soi, c'est là qu'on peut avoir accès avec écoute, avec bienveillance, des sentiments désagréables pour qu'on puisse les libérer. Et là, je partageais ça, moi, dans des petits groupes de soutien, comme je vous mentionne, 10-15 minutes, et je pleurais ma vie à chaque fois. Et à chaque fois que je partageais, j'enlevais une pleure, hein, une pleure d'oignon, j'enlevais, tu sais, un Kleenex dans la boîte de Kleenex.
Ouais.
Et je partageais, et ce que je m'apercevais, j'allais chercher beaucoup de valorisation. Parce que les gens se reconnaissaient beaucoup dans mon histoire, et ça leur faisait du bien. C'est comme s'ils se donnaient accès à leur sensibilité.
Mmh.
Et j'ai compris que plus j'étais dans l'authenticité, plus j'étais dans la vulnérabilité-sensibilité, j'étais dans ma vérité, plus les gens me reconnaissaient. Et c'est que j'ai compris à l'époque que plus je suis vrai, plus je suis moi, en me montrant sur mes vraies couleurs, je pouvais aider mon prochain et en plus, les gens me reconnaissaient d'être de cette façon-là. Alors, c'est certain que j'ai continué à partager des mini-partages et par la suite, j'ai vu le bienfait que ça faisait et j'ai retourné aux études en psychologie, en thérapie pour approfondir mes connaissances. Et je suis devenu conférencier enseignant avec le temps. Et un soir, il y a un de mes frères les plus vieux qui est arrivé à la maison en me disant « Bobby, il y en a un, il m'appelle Bobby, tu sais.
Ouais. »
Il dit « Il y en a un des trois qui s'en veut d'avoir tué papa. Il sent le plafond descendre, les murs rétrécir, il fait des séjours à l'hôpital. » Alors, c'est sûr que entre frères et l'ego, l'orgueil a pris place. Et j'ai dit à mon frère « Mais c'est pas assez souffrir, on a souffert nous aussi. Hein. » Mais quand il est parti, je me suis arrêté, j'ai médité. Et ma méditation, ça le fait en sorte que fait quelque chose pour lui. Et moi, je suis un homme d'action, alors j'ai appelé à la prison de Kingston. Et quand j'ai appelé à la prison de Kingston, et je lui ai raconté au gardien de prison, « Écoutez, mon nom, c'est Robert Savoie Junior. J'aimerais aller en prison, pardonner un des assassins qui a tué mon père. Comment on fait pour arriver à être capable de faire ça? » Et ils ont fermé la ligne.
Ils ont fermé la ligne?
Ils m'ont fermé la ligne. Ils ont dû dire c'est un fou, hein, c'est un malade, parce qu'ils doivent avoir des téléphones comme ça.
D'accord.
C'est un quoi.
Ils vous ont pas cru. Alors là, en fait. Ils vous ont pas cru.
Ils m'ont pas cru. Et j'ai appelé le détective qui s'appelle Marc Pinault et je dis, Marc, voici ce que je veux faire. Et lui, il m'a mis en contact avec la justice réparatrice. Et ils sont venus me rencontrer un vendredi ensoleillé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et un grand monsieur, Jamie Scott et Francine Tetley, qui est avocate à l'époque à l'Université d'Ottawa. Elle est enseignante aussi à l'université. Alors, ils sont venus me rencontrer et ils ont passé 4 heures avec moi pour savoir si, premièrement, mon intention était noble. Hein. Et ils sont aperçus après 4 heures que mon intention était noble de vouloir rencontrer l'assassin. Et à ce moment-là, j'ai pris une grande prise de conscience parce que j'étais déjà aux études depuis 2 ans. Et j'étais assis, ils m'ont dit, tu sais, Robert, toi, t'es prêt. On voit que t'as vraiment pardonné et que t'es prêt, mais par contre, on doit demander la permission à celui qui a tué ton père, voir si lui veut te rencontrer.
Oui.
Et j'étais assis, c'est comme si j'ai retombé assis dans ma chaise. Parce que ma perception à ce moment-là, c'était, écoute, t'as tué mon père, là.
Tu me dois ça.
T'as pas le choix.
Ouais.
Tu me dois ça.
Ouais.
Mais ma prise de conscience, à leur départ, j'ai compris que le pardon, tu ne peux pas l'imposer à personne.
Mm-hmm. C'est vrai.
C'est vraiment pour soi qu'on fait ça.
Ouais.
Alors, c'est un don de soi. Et c'est certain que j'avais une attente et mon attente m'a frustré. Et c'est certain que j'en ai même pleuré parce que mon intention était noble, et ainsi de suite. Et ils m'ont rappelé 3 semaines après pour me dire, écoute, Robert, on a parlé à Joey, l'assassin que tu es ton père, et il a accepté de te rencontrer. Alors, pour moi, encore là, ça va se faire dans les prochaines semaines. Et ça a duré 9 mois avant que je le rencontre, une naissance d'un enfant. Et ce 9 mois-là, ce que ça le fait, c'est qu'aux 2 semaines, il venait me rencontrer, on échangeait ensemble comment je me sentais, comment est-ce que je voyais ça. Et quand il arrivait à la prison de Kingston, mais il allait raconter ça à Joey, l'assassin, comment est-ce que je me sentais, ainsi de suite. Alors, eux revenaient me voir par la suite pour me dire comment est-ce que Joey se sentait. Et ce que ça le fait, c'est que lui, il a commencé à rencontrer une sœur qui faisait du bénévolat en prison, aller rencontrer des détenus, parler de la confiance en soi, de l'amour de soi, la libération, le lâcher prise. Alors, il a commencé à rencontrer cette sœur-là pour aller chercher de l'information sur le pardon, et ainsi de suite.
Oui.
Et je ne veux pas parler de religion, c'est de partager la religion avec la spiritualité. Je trouve ça, c'est chacun sa religion, hein. Moi, je parle vraiment de spiritualité ce soir et de vulnérabilité, sensibilité. Je parle de l'être humain qu'on est, comment est-ce que c'est important de prendre soin de soi et surtout de faire le chemin de la libération. Et ce 9 mois-là, monsieur, et tous les gens qui écoutent, je peux vous dire que c'est important parce que ça l'a, moi, j'étais prêt, mais ça l'a préparé lui aussi à ma rencontre. Et 3 mois avant la rencontre, un soir, j'étais en méditation et j'écoute ce qui est là pour moi et il y a une petite voix dedans de moi qui dit ben pourquoi tu n'invites pas toute sa famille? Parce que pendant les rencontres, j'ai su qu'il y avait une grand-mère, qu'il y avait une sœur et qu'il y avait une mère. Alors j'ai appelé Jimmy le lendemain, qui est la justice réparatrice, et je dis écoute, Jimmy, est-ce qu'il serait possible qu'on invite toute sa famille? Parce que j'ai dit quand lui sortira de prison, mais si sa famille peuvent le pardonner et de se sentir moins coupable, mais il y aura sa famille pour le soutenir. Alors, Robert, il dit, écoute, Robert.
Robert, oui? je vais vous interrompre parce qu'on va,
oui,
on va continuer votre histoire après le flash.
Après la pause.
D'accord. Après, on va marquer une petite pause. Et justement, on fait comme votre histoire, c'est tellement presque un film que on va tenir tout le monde en haleine et puis vous allez revenir après le flash, d'accord? Vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques instants. D'accord?
Super, merci.
À tout de suite.
Attendez.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 4 minutes et vous êtes bien sur Europe 1 et vous êtes sur votre libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin en direct. Vous pouvez composer le 3921 pour nous joindre, c'est 50 centimes d'euros la minute. Venez vous raconter, venez nous raconter votre vie comme Robert ce soir qui nous parle de sa vie, du meurtre de son père assassiné en 95 par 3 jeunes gens pour la somme de 40 euros. Et puis, la colère, l'esprit de vengeance envahit Robert. Et puis, au bout d'un moment, Robert rencontre Robert, j'ai envie de dire. Vous décidez de vous connecter un peu plus à vous, parce que vous souffrez, malgré la réussite professionnelle, malgré une grande réussite professionnelle. Vous dites que vous avez acheté des voitures, vous avez fait construire une grande maison, mais que finalement, votre équilibre et votre bonheur ne se trouvaient absolument pas là et que vous souffriez énormément jusqu'à rencontrer la méditation et jusqu'à vous rencontrer. Et puis, vous décidez à un moment, sachant que l'un des 3 assassins de votre père est pris de regrets, de remords, qu'il en est malade en prison, vous décidez de le rencontrer. Et nous en étions là, Robert, me semble-t-il. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Vous êtes vous avez une écoute extraordinaire, mon cher monsieur.
J'essaie.
Alors. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Et il a accepté cette rencontre-là, comme je mentionnais. Et encore là, pendant ces trois mois-là, il reste environ, écoutez bien ça, là, puis que les gens qui écoutent, je veux que vous soyez conscients. Désolé. Je veux que vous soyez conscients que j'étais 5 ans à vouloir les tuer, là. À vouloir me venger, à vouloir les détruire. Et par la suite, après ces 5 ans-là, moi, mon idée était de m'enlever la vie. Alors, c'est ce que je vivais. Et là, après un long cheminement, comme j'expliquais, et 3 mois qui restent avant que je rencontre l'assassin, j'ai invité sa grand-mère et sa mère et sa sœur. Et la seule personne qui a accepté, c'est la grand-mère. Et la justice réparatrice, ils ont accepté aussi. Et sa mère et sa sœur, ils n'ont pas accepté, ils avaient peur. Et encore là, là, ben on continue, on poursuit. Et 3 semaines environ avant la rencontre, et encore là, je suis en méditation et j'écoute ce qui est là, tu sais. Et ce qui monte à l'intérieur de moi, ça dit, ajoutez une chaîne en or avec une croix. Et là, c'est monté. Et c'est certain que l'ego a pris place assez rapidement parce que je suis une personne à ce moment-là encore qui a peur du jugement. Il a peur de qu'est-ce que les autres vont penser. Et là, ben c'est certain que hey, qu'est-ce que tes frères vont dire? Ça n'a pas de sens, là. Elle a acheté une chaîne en or avec une croix. Il a tué ton père, là, tu sais. Qu'est-ce que les gens vont penser de faire ça? Et j'ai écouté cette petite voix-là et je l'ai fait. Et je lui ai dit, le but et l'intention de ça, c'était que rendu en prison, quand il sortira de prison, ben s'il se sent mal, il a le goût de faire d'autres crimes, mais l'intention était de « Souviens-toi du temps qu'on aura passé ici ensemble. » C'était ça l'intention. Et je l'ai fait, je l'ai acheté, et j'ai mis ça dans un petit coffret. Et quand je me suis présenté à la prison de Kingston, en Ontario, environ 2 heures et demie de route, et là, tu médites, hein, parce que tu ne rencontres pas l'assassin que tu fais ton père tous les jours. Hein.
C'est clair.
Je l'ai vu sur des photos, j'ai fait un cheminement incroyable du pardon, j'ai fait des études. Alors, pour moi, à l'intérieur de moi, je suis en paix, mais de le voir et de ressentir l'énergie qui est là, ça s'est pas fait encore. Alors, quand je suis arrivé en prison, Joey était dans sa cellule et Jimmy Scott, qui est le président de la justice réparatrice, c'est Francine Tetley. Il m'attendait à l'intérieur de la prison. Et je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, il y a 3 gardiens de prison qui sont sortis. Je peux vous dire, mon cher monsieur, les gardiens de prison, c'était des monstres. C'était juste à les regarder dans le visage, ils faisaient peur. Alors là, on ouvrait la porte. La prison, pour entrer à l'intérieur, et je peux vous dire, aussitôt que j'ai rentré, il y a une odeur qui est forte, ça sent fort. Hein?
Oui.
Et c'est lourd, hein? c'est l'énergie, elle est lourde. Et quand je suis arrivé dans une des pièces en prison, déjà la grand-mère est arrivée, elle était assise avec les mains entre les jambes, les yeux pleins d'eau. Il y avait aussi une psychologue qui était là, qui est importante pour nous parce que j'ai dit, si on vit des émotions, ce serait important qu'il y ait quelqu'un professionnel qui soit là pour nous guider.
Oui.
Et je me suis assis, Francine Tetley était là, avec un autre avocat, Sylvie, et Jamie. Et on s'est assis, et les 3 gardiens sont en allés dans chaque coin. En cas, tu sais, on ne sait pas ce qui peut se produire, parce qu'on ne rencontre pas, comme je mentionne, l'assassin que tu es ton père tous les jours. Et quand je me suis assis, c'est sûr qu'on a commencé à parler qu'est-ce qui est là, comment ça a été la route, juste pour détendre l'atmosphère. Et quand Jimmy a vu que je me sentais bien, il m'a dit « Robert, est-ce que tu es prêt? » J'ai dit « Oui, je suis prêt. » Et ils ont été chercher Joey, l'assassin qui a tué mon père, dans l'autre pièce. Et c'est sûr que, comme j'enseigne dans mes stages, tu sais, j'ai mis le projecteur sur moi. Et j'ai vraiment pris de la hauteur pour observer comment est-ce que je me sentais. Mm-hmm. Et quand il a passé dans le corps de porte, je l'ai regardé de la tête aux pieds. Et en le regardant de la tête aux pieds, là, je m'observe, qu'est-ce qui est là, comment tu te sens de voir cette personne-là qui a tué ton père? Et j'ai aucune émotion de haine. Alors, il s'est assis en face de moi, et là, je l'observe, et lui aussi, il s'émante les jambes, il pleure. Et j'ai commencé à parler. Et c'est certain que je lui ai pas dit merci d'avoir tué mon père. Aujourd'hui, je suis rendu un enseignant dans le développement personnel. Je fais des stages de 3 jours pour vous libérer. Je suis rendu à 3500 conférences. Vous voyez, tu sais, j'ai pas dit ça, là. J'ai dit, écoute, t'as tué mon père. Je sais pas si tu le sais, mais mon père, c'était le noyau chez nous. Je voulais qu'il réalise le mal qu'il m'avait fait, là.
Mm-hmm.
Qu'il l'entende de ma bouche, tu sais, sans lui le faire sentir coupable ou quoi que ce soit, mais je voulais qu'il réalise le mal et l'ampleur que ça avait fait. Et à la fin, je lui dis, écoute, Joey, je veux juste te dire, malgré tout ce mal, cette souffrance, je veux juste te mentionner que je suis ici pour te dire que je t'ai pardonné. Et ma famille aussi t'ont pardonné. Et c'est là qu'elle a commencé à parler. Il est certain que je raconte ça et je pleure au moment parce que je suis très vulnérable, très sensible à ce qu'on vit. Et lui aussi, il pleure. Il dit, la seule façon, Robert, que je pourrais me pardonner, ça serait de sauter à l'eau et sauver une personne qui est dans la noyade. Hein? Sauver sa vie, là, je pourrais me pardonner parce que j'aurais sauvé une vie ou rentrer dans une maison en feu et de voir la maison brûler et la personne qui serait à l'intérieur et sauver sa vie. Je pourrais me pardonner parce que j'aurais sauvé une vie. Mais là, j'ai pris parole et je lui ai dit, écoute, la vie que tu vas sauver, c'est la tienne. Parce que quand tu sortiras d'ici, si tu peux te libérer, si tu peux prendre soin de toi, de qu'est-ce que tu as vécu, ben tu feras peut-être pas mal à d'autres pères de famille ou à une conjointe que tu auras éventuellement et des enfants probablement.
Robert,
alors, on a continué à échanger, oui.
On va marquer encore une petite pause, si vous le voulez bien, et on va continuer à vous écouter, d'accord?
D'accord, à tout de suite.
À tout de suite.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21, 75 centimes plus coût du SMS. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h14 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne et nous échangeons avec Robert ce soir qui s'apprête à rencontrer, donc qui rencontre l'assassin de son père assassiné donc en 95 par 3 jeunes gens. Robert, quand cet homme commence à parler, qu'est-ce qui vous passe comme sensation dans le corps? Qu'est-ce que vous sentez exactement?
Écoutez, excuse-moi, là, je suis un petit peu sensible à qu'est-ce que je vais nommer. J'ai de l'amour pour quelqu'un qui a tué mon père, aussi simple que ça.
Mm-hmm.
Et comme j'ai dit au tout début de l'émission, hein, j'ai voulu les tuer et tellement de colère, j'étais devenu un danger public moi-même, hein, avec la rage que je vivais, là, j'étais devenu dangereux. Et là, je suis assis en face de lui et j'ai aucune haine, aucun sentiment de vengeance. Et j'ai de l'amour pour cette personne-là parce que il est authentique, il est vrai. Ça lui fait quoi d'avoir tué mon père? Il s'en veut.
Il a fait du chemin, vous le sentez, là, au moment où vous le voyez, qu'il a fait lui aussi beaucoup de chemin?
Il a fait du chemin parce que d'avoir voulu me rencontrer, il a fallu qu'il fasse un chemin.
Oui, oui.
Mais les gens peut-être qui écoutent à ce moment-ci, ils disent « Ouais, il a fait un chemin », mais les autres qui n'ont pas voulu faire le chemin, il y en a un qui n'a pas voulu, lui, il a toujours été dans le crime. Mais je lui ai pardonné pareil. Parce que j'ai compris que le temps que j'en voulais à ces assassins-là, c'est comme si je leur donnais mon pouvoir. Hein? Alors, j'ai compris que, je répète encore, c'est égoïste. Quand on pardonne, on ne donne pas raison à personne. c'est qu'on se fait du bien à soi. Nous, on est une relation. Alors, s'il y a une partie de sa relation qui est la partie sombre de soi, qui en veut à quelqu'un, c'est nous qui avons mal, c'est nous qui sommes en prison intérieurement dans l'affectivité, qui souffrent. Alors, c'est libérer ces charges émotionnelles. Et c'est pour ça qu'il est assis en face de moi et de m'avoir libéré et être en paix avec moi, ben, j'ai un autre regard sur la vie. J'ai un autre regard aussi sur lui.
Et... Il y a quelques mois, ici sur cette antenne, nous avons eu le témoignage d'un monsieur. J'ai oublié son prénom, malheureusement. Si Natacha s'en souvient, elle me le donnera. Mais un monsieur qui avait été abusé par un bienfaiteur, vous voyez, qui l'avait pris sous son aile, qui l'avait protégé, lui et ses frères, mais tout en finalement abusant de lui, en fait, et en lui racontant qu'il lui enseignait la sexualité, mais que, voilà, il nous racontait combien, quand il avait réalisé ce qu'il avait subi, il avait longtemps erré, longtemps été comme une âme en peine, et jusqu'à avoir honte de lui, jusqu'à penser qu'il sentait une odeur particulière. Et cet homme nous expliquait qu'au moment où il a entamé ce chemin de pardon et qu'il est arrivé à pardonner, il nous disait cette chose très forte. J'ai trouvé ça m'a beaucoup marqué. Il nous disait qu'il avait réalisé que ce qu'il avait fait, cet homme, ça lui appartenait à lui, en fait. Et que le mal, en fait, c'était à lui que ça appartenait et que ça n'était pas donc à la victime que ça appartenait. Et que tout ça, il le lui avait rendu en pardonnant. Mm-hmm. Est-ce que c'est cette même sensation que vous avez eue, vous, Robert?
Ben, je suis d'accord avec le monsieur que vous parlez. T'sais.
Je crois que c'était Charles, mais je ne suis pas sûr, mais il me semble me souvenir que c'était Charles.
Moi, le pardon que j'ai fait, c'est vraiment de me libérer, moi, et en souhaitant de l'amour à cette personne-là, parce que j'ai compris qu'il y avait une loi du retour pour tout le monde. C'était pas à moi faire justice sur cette planète Terre. Et d'y remettre mon mal à cette personne-là, c'était comme lui souhaiter le mal, lui souhaiter la vengeance. Alors, j'aimais mieux, moi, pardonner pour que lui aussi puisse se pardonner. Mm-hmm. Pour qu'il puisse être en paix avec lui. Il a fait une erreur, jamais m'en prouver ce qu'il a fait. On doit comprendre qu'est-ce qu'il a fait comme crime. On ne tue même pas un animal comme ils ont tué mon père, OK? Ça, je ne peux rien y faire. Par contre, par la suite, ma responsabilité, moi, en tant qu'être humain, et notre responsabilité pour tous ceux qui écoutent présentement, c'est de mettre le projecteur sur soi. Parce que ce qu'on vit comme émotion, ce qu'on vit comme sentiment, ça m'appartient à moi. C'est moi, c'est mes sentiments à moi, c'est mes émotions à moi. Il n'y a aucun être humain sur la Terre qui m'a donné des émotions, qui m'a donné des sentiments. C'est moi qui les a développés. C'est moi qui les a créés suite à mon histoire de vie. Lui, il est venu les éveiller. Et j'approuve pas. J'ai été abusé sexuellement, moi aussi, à deux reprises à l'âge de 7 ans. Je sais c'est quoi. J'approuve pas cette expérience-là. Mais par contre, ma responsabilité, c'est qu'est-ce que j'en fais par la suite. C'est là qu'il devient important de me dire, hey, est-ce que je vais en vouloir le restant de mes jours à ces personnes-là qui m'ont fait du mal ou je décide de pardonner pour me libérer de ma charge émotionnelle et pour que je puisse vivre une vie plus saine. Et la loi du retour s'occupera de ces gens-là. C'est pas à moi à m'en occuper. Il y a une justice, et cette justice-là sera rendue. Mais je dois souhaiter de l'amour à ces gens-là pour que je puisse en recevoir en retour. Mais mm-hmm. pour ça, ça demande un long cheminement. Ça demande un regard aimant envers soi et de libérer ses charges émotionnelles pour arriver à être en paix. Et tu sais, quand on est revenu de la pause en prison, là, sa grand-mère, elle est venue me toucher le visage, tu sais, avec des yeux remplis d'amour. C'est une grand-maman bienveillante qui fait des petits biscuits au chocolat, vous comprenez, tu sais.
Oui, oui.
Et Et elle me voit comme un homme avec une sagesse, avec une authenticité, vulnérabilité, sensibilité. Elle est tellement heureuse de voir que j'ai pardonné à son petit-fils. Et quand on est revenu de la pause, on s'est assis encore plus près, hein? Et c'est là que, suite à des échanges qu'on a eus, ben, j'ai eu l'instinct de sortir le coffret avec la chaîne en or et avec la croix. Et j'ai mis ça sur la table. Et il y a eu un silence quelques instants. Et là, sa grand-mère a donné un coup de coude à Joey, l'assassin, en disant « Mais prends-le ». Et quand il a pris le coffret et qu'il l'a ouvert, il a éclaté en sanglots. Et quand il a vu la chaîne en or avec la croix, il a éclaté. Et je pense pas qu'il s'est dit « Yes, une chaîne en or avec une croix, je vais pouvoir vendre ça pour m'acheter de la drogue ». Je crois. Encore là, je demande aux gens de départager la religion avec la spiritualité. Je crois que quand il a vu la croix, c'est un symbole qui l'a ramené à éveiller sa foi en lui, sa spiritualité, son abondance, sa divinité. Et ça a été tellement fort qu'il a éclaté en sanglots. Et il s'est levé debout. Et quand il s'est levé debout, j'ai compris ce qu'il voulait. Et je me suis levé moi aussi. Et on a fait le tour de la table ovale. Et je l'ai pris dans mes bras. Et les deux, on pleure. Et je peux vous dire une chose, si tu verrais mon physique, si vous verriez mon physique, je suis assez costaud. Okay. J'aurais pu l'étouffer dans mes bras. J'aurais pu y casser les côtes dans mes bras, mais j'ai aucune haine. Mm-hmm. Et pourtant, j'étais 5 ans à vouloir le décapiter en petites pièces. Oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer les scénarios que je me faisais, mm-hmm. qui étaient des films d'horreur. Et là, je l'ai dans mes bras, on pleure les deux. Et après un certain temps, j'ai dit, « OK, elle est où la psychologue? Parce que ça serait le temps que tu viennes intervenir. » Et quand on s'est tourné, les deux, elle était en larmes avec la guédille au nez. Et c'était tellement intense pour elle parce que malgré toutes ces années d'études en psychologie à l'université et des cours spécialisés pour devenir une grande psychologue au Canada, elle venait d'éveiller son histoire de vie. Et la grand-mère s'est levée et elle est venue nous rejoindre. Et Jimmy, les deux avocates sont levés et on a fait un ballon de football. Et la psychologue, elle s'est levée, elle est venue nous rejoindre. Et ce qui a été marquant, tu sais, je raconte ça d'une façon, essayer le plus possible de faire sentir aux gens comment est-ce que ça pouvait être intense. Mais ce qu'on ressentait dans cette pièce-là, et je mentionne encore une fois qu'on était en prison, là. Et les trois gardiens de prison que j'appelais les monstres, parce que c'était
des colosses.
Des colosses, des pièces d'hommes incroyables. Et ils sont venus fermer la boucle du ballon de football. Et ces trois hommes, ils pleuraient comme des enfants.
Oui, ça devait.
La libération.
Oui, ça devait être très
exceptionnel
intense.
Avec ces produits. Mmh. Ouais. Et à la fin, les deux avocates et la psychologue, ça, ils sont rencontrés, ils sont venus me voir, puis ils ont dit « Robert, on a été à l'école et on a été à l'université pendant des années et des années de temps pour être avocate spécialisée, être psychologue spécialisée dans notre domaine. Et je peux te dire que dans 4 heures ici, on vient de dépasser toutes ces années qu'on a fait. Mmh. Alors, on doit comprendre que quand on libère, le temps n'existe plus. On peut libérer parfois 40, 50 ans, 30 ans de souffrance.
C'est là où cette justice réparative qui fait ses premiers pas en France depuis quelques années. Hein. C'est encore pas expérimental parce qu'on a un peu avancé, mais on s'est inspiré d'ailleurs de ce qui se faisait aux États-Unis et puis surtout au Canada, puisque nous avons la langue en commun et cette justice réparative, on voit dans vos mots, là dans ce que vous nous racontez, combien on fait un bond énorme dans l'humanité, vous voyez, dans l'humanité, dans le, dans, vraiment dans le sentiment d'humanité et que qu'on peut pas avoir dans un tribunal de toute façon. Donc c'est quelque chose de très fort. On va marquer encore une pause, Robert, et on se retrouve tout de suite, d'accord ?
Pas de souci, merci.
À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h28, vous êtes sur Europe 1, sur votre libre antenne. Nous évoquons avec Robert la justice réparative, le pardon. Le pardon à l'assassin de son père, parti en 95 sous les coups de trois jeunes gens de 19 ans, tués dans des conditions de sauvages. Hein, Robert, vous m'avez dit combien votre père avait été battu à mort par ces trois jeunes gens. Vous rencontrez donc Joey en prison et vous parliez de ce grand moment d'émotion où tout le monde a été touché par cette grâce, on peut parler d'une sorte de grâce, là, dans ce moment-là.
C'est une sorte de grâce, oui, parce que je ne crois pas que c'est l'humain que je suis qui a pu rendre ça possible. C'est là qu'on doit comprendre que c'est par la libération de ces charges émotionnelles que je peux revenir à l'amour de soi. Et l'amour de soi, pour moi, c'est l'abondance. L'amour de soi, pour moi, c'est la haute vibration. L'amour de soi, c'est à qu'est-ce qu'on inspire. C'est notre source, l'amour de soi. Et selon moi, ma source, mais c'est qu'est-ce qui est le plus grand. Et cette source-là avait une bonne intention pour moi. Et cette intention-là, mais si je porte des intentions saines à tous les jours, mais je risque d'obtenir ce que je veux. Et tu sais, mon cher ami, puis tous les auditeurs qui écoutent, on a perdu une vie importante en perdant la vie de mon père. Si j'étais capable d'appuyer sur un bouton et retourner en 1995, le 24 août, et d'embarquer dans le camion de mon père et dire à mon père, « Papa, viens-t'en, on s'en va d'ici, il va arriver un malheur. » Je ne peux pas rien faire avec ça. Je ne peux pas, ça n'existe pas. Par contre, je peux m'occuper de comment est-ce que je me suis senti pour m'en libérer. Je peux m'en occuper pour aider mon prochain. Parce que j'ai compris qu'on a perdu une vie importante, mais suite à mon cheminement personnel, comme je vous ai mentionné tantôt, je suis rendu aux études, j'ai retourné aux études à l'époque en psychologie, en thérapie, et je suis rendu à 3553 conférences depuis plus de 20 ans que je fais le métier d'enseignant et que j'aide les gens à se libérer et à atteindre le plein potentiel. Et je peux vous dire que dans 20 ans, j'ai minimum une soixantaine de personnes qui m'ont dit, Robert, moi, c'était mon dernier arrêt dans tes stages. Si ça ne faisait pas rien pour moi, j'avais l'heure, l'endroit et je m'enlevais la vie. Alors, si on fait le décompte, on a perdu une vie importante qui est la vie de mon père.
Mais on en a gagné d'autres.
C'est pas moi qui ai sauvé la vie des gens, c'est eux. Mais par mon histoire de vie, en ayant libéré, j'ai pu le partager parce que je l'ai accepté.
Comment votre entourage, vos frères, puisque vous m'aviez dit au début de votre témoignage avoir quatre frères, hein, vous étiez cinq.
On était cinq. Oui, il y en a un qui est décédé suite à beaucoup de colère.
D'accord.
Beaucoup de colère, beaucoup d'haine.
Comment
votre
entourage
sont très fiers de moi.
D'accord.
Ma mère, elle est très, très fière de moi. À chaque fois qu'on se parle, elle me dit toujours, t'es tellement grand. C'est beau de te voir. Et tu sais, aux fêtes, à Noël, on a un rituel, nous, à la maison. Ma petite famille qui est ma conjointe, mes deux enfants, ma fille elle a 30 ans, j'ai un petit garçon de 14 ans, j'ai un petit-fils. Mon genre, on est à la maison, puis on a fait un jeu, et le jeu, c'était de se reconnaître. Et ma fille, elle me dit, « Papa, je te reconnais pour pour transformer des vies. Je te reconnais pour l'homme bon que t'es. T'es mon mentor, t'es mon idole, t'es tellement inspirant. Et ton fils de 14 ans qui te dit, tu sais, papa, t'es un modèle pour moi. T'es une source d'inspiration. Quand t'entends ça de tes enfants, tu te dis, waouh!
Waouh! Et quelque part, quand on sait d'où tout cela part, on se fait un double waouh, Robert. Parce que c'est vrai que vous avez raison de dire que tout ça part d'un quelque chose de très moche, de très violent, de très noir. Et combien de lumière, de luminosité est sortie de ce départ de votre père dans ces conditions-là? C'est énorme quand on y pense. Et là, vous êtes en France pour aussi donner des conférences?
Oui, je fais des stages qu'on appelle au Québec des retraites ateliers Phoenix,
oui,
qui durent 3 jours. C'est vraiment des retraites de libération. Là, je suis à ma 8e tournée de conférences européennes. Et je fais 3 conférences cette semaine. Il y en a une demain, le 22 janvier, 23 et 24.
Oui. Où ça?
Et là, il faudrait aller sur mon site robertsavoie.com où vous pouvez taper aussi ta voix, c'est TA-VOIE.com. Oui. Vous allez avoir toutes les informations.
D'accord.
Des 3 endroits.
D'accord.
Et c'est 3h30 de conférence qui... Il y a un avant et un après quand on rencontre Robert Savoie. C'est ce que les gens me disent.
Génial. Génial. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre histoire. Merci, merci d'avoir pensé à nous, là, à toute l'équipe de la Libre Antenne, pour... vous racontez, Robert, parce que c'était comme pas mal d'histoires.
Merci. Vous êtes vraiment généreux. Et je disais à votre recherchiste tantôt, je dis « Wow, quelle belle émission que les gens peuvent déposer, qu'avec notre histoire de vie, parfois, ça peut faire du bien aux autres. » Et là, j'ai Karine, une conférencière qui va être là avec moi. La conférence est à Nantes, oui, Metz et Paris.
D'accord.
Et j'ai le goût de dire merci aux auditeurs et on a le droit à nos opinions. On a le droit à dire ce qui est là. Et j'espère que ça peut vous avoir fait du bien ou donner espoir peut-être à quelque chose que vous vivez qui est difficile. Mais je peux vous dire une chose, que tout est possible. C'est vrai que ça existe, ce mot-là. Quand on se donne la permission de se libérer et de voir la lumière à l'intérieur de soi qu'on a tous, c'est là qui fait toute la différence.
Quand on se donne la permission, vous avez raison, quand on se donne la permission.
Oui, il faut se donner la permission. Hein? Capable de réussir, ça veut dire qu'on a tous le droit à réussir ces moments-là.
De toute façon, c'est ici que vous pouviez être le mieux pour évoquer votre histoire, parce que je dis souvent ici que tout est possible. Il suffit de se l'autoriser, de le vouloir. Donc tout est possible. Et en ça, ce soir, nous nous rejoignons tous. Hein? Merci, Robert.
Vous êtes vraiment un animateur extraordinaire. Puis bravo pour ce que vous faites. J'ai juste le goût. Si je serais près de vous, je vous le dis, je vous donnerais en bon québécois, là, un sapristi de Joe Calin, mon cher.
Ben écoutez, peut-être que la vie nous. On se croisera peut-être, hein?
Ben, ça serait un plaisir de vous rencontrer et merci à vous tous qui étiez présents.
Merci, Robert, et portez-vous bien et bon courage pour inonder de lumière tous ceux qui croiseront votre route. Mille merci d'avoir. Parler ce soir sur Europe 1. Je vous embrasse. Au revoir, Robert.
Je vous embrasse. Au revoir, tout le monde.
Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.